Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Startup Mafia. Je suis Kamel Zeroual, investisseur dans la tech et entrepreneur depuis toujours. Startup Mafia, c'est un format long. Une saison est consacrée à une scale-up et un épisode est consacré à un talent. L'objectif, comprendre l'envers du décor avec un prisme talent, car c'est eux qui contribuent, avec les fondateurs, à faire grandir le business de manière si rapide. Excellente écoute à tous. C'est parti, Greg, on est chez toi. Je suis ravi de passer du temps avec toi parce qu'on se connaît depuis plusieurs années et que tu fais partie des belles histoires de fintech françaises rachetées par un super opérateur qui est Checkout. Donc la première question pour que tout le monde te situe, parle-nous un peu de ta fonction, donne-nous un peu ton état civil, les grandes lignes, et puis après on remontera le temps.
Écoute, merci de me recevoir. Moi je m'appelle Grégoire Delpy, j'ai 36 ans, aujourd'hui je bosse chez Checkout, où je m'occupe de la stratégie et du M&A, et je suis en train de transitionner pour changer de job après 2 ans dans ce job-là. Et je vais reprendre en fait la boîte que j'ai montée, qui s'appelle ProcessOut, pour, on va dire, accélérer son développement.
Bon, ça c'est tout un programme. On va parler de ProcessOut, bien sûr. On va rentrer dans le détail parce que c'est une aventure dans laquelle il y a eu énormément de roller coasters. Et puis il y a plein de détails que moi j'ai vécu en direct, donc c'est super cool. Si on remonte un peu le temps, 36 ans. Où est-ce que tu as grandi, toi? C'est quoi ton setup de famille? C'est quoi ton environnement d'éducation pour un peu comprendre comment tu commences la vie?
Moi, c'est super simple. Moi, je suis un gars j'ai eu de la chance. Je suis né en France, qui est un super pays. Je suis né dans une super famille. J'ai des parents que j'adore. Je pense qu'ils, tu vois, nous ont à la fois protégés et poussés. J'ai un frère et une sœur qui sont, avec qui je m'entends hyper bien.
T'es quel numéro toi ?
Moi, je suis le numéro 1.
Ok.
Et tu vois, et pour qui j'ai beaucoup d'admiration et d'amour, on va dire. Donc c'est génial, tu vois. Donc j'ai juste eu de la chance.
Donc t'es parisien, où est-ce que tu grandis ?
À Paris. J'ai grandi à Paris jusqu'à 19 ans où je pars à Lille faire mes études. Et après, je commence ma carrière.
Tu vas à Lille post-prépa?
Ouais, post-prépa. Je fais une prépa pendant 2 ans à Paris.
Et pourquoi tu fais une prépa?
Pourquoi je fais une prépa? Parce que je pense que, en tout cas à l'époque, dans le schéma que j'avais, c'était en fait la continuité normale en fait d'un passage par le lycée, et c'est ce qui t'a amené finalement à pouvoir avoir le choix de ce que tu voulais faire après.
Parce que à l'époque, tes potes font la même trajectoire, parce que tes parents ont fait aussi des études supérieures de type. C'est quoi?
Non, je pense que c'est plus lié à l'environnement parental. Okay. Je pense que et sans aucune contrainte. Hein, parce que je veux dire, il y a pas de. Mais je pense que c'est juste que j'avais beaucoup d'admiration pour mes parents, que je trouvais que tu vois le.
C'est quoi d'ailleurs?
J'ai des parents qui ont fait pas mal de choses. J'ai un père qui a fait du conseil en stratégie et qui en fait avait son cabinet de conseil et entrepreneur employé oui non mais enfin il a un profil très entrepreneur, oui tout à fait, oui non et j'ai une mère qui a eu plusieurs vies avec aussi je pense un profil très entrepreneur mais aussi très dévoué à ses enfants. Ma mère m'a dit un jour que le plus beau compliment, je crois que c'est mon petit frère qui lui a fait, mais je crois que j'aurais aimé lui faire, c'était « Avec toi, maman, c'est fantastique, tous les mercredis, on va visiter le monde. » Et donc, je pense qu'elle a beaucoup, tu vois, essayé en fait de nous faire...
Elle a arrivé à s'organiser pour passer du temps avec nous.
Ouais, je pense que tu te rends compte avec le recul quand t'es plus grand, tu sais, tous les efforts qu'ont fait tes parents, tout ce qui te semblait normal, mais qui en fait n'était pas tant et demandait beaucoup d'efforts. Et je pense que oui, ça a été un vrai driver.
D'accord. Donc toi, t'as cet environnement très très positif. Donc tu vas en prépa un peu mécaniquement parce que tes copains font la même chose et parce que tes parents te poussent à le faire aussi.
Mes copains ne font pas tous. Et c'est peut-être d'ailleurs un moment qui est un peu. C'était un moment qui était un peu étonnant parce qu'en fait c'est vrai que tu te fais un peu mal à un âge où tu as envie de faire autre chose, tu as envie de découvrir le monde et en fait tu t'enfermes un peu. Enfin, en tout cas, moi je l'ai vécu comme ça. Et justement, tu as des copains qui vont en fac, tu as des copains qui vont dans d'autres filières où ils ont une vie qui est peut-être plus ouverte. Mais a posteriori, tu vois, ce qui s'est passé après, et cette logique de dire tu bosses dur pendant 2 ans, tu passes un concours et après en fait tu peux consacrer du temps à faire énormément de projets. Ça m'a beaucoup plu. Et c'était, je pense que c'était un peu le deal et le contrat moral avec les parents.
D'accord, ok. Et donc tu arrives à Lille à l'ETHEC, j'imagine?
J'arrive à Lille à 19 ans.
Ouais.
Et ouais, non, c'était génial.
Donc là, tu découvres la vie d'étudiant donc là, ça a une énorme bouffée d'oxygène, j'imagine.
J'étais pas à plaindre avant, mais c'est une nouvelle vie qui s'ouvre. Et en fait, c'est une vie où, au lieu de te dire, ah bah tiens, il faut que tu fasses ça, on te dit, ah bah tiens, en fait, voilà tout ce que tu pourrais faire, fais ce que tu veux. Et donc, on a eu plein de projets étudiants, j'ai monté un site internet avec un copain, tu vois, je me suis engagé dans une association de voile où on a organisé une course de voile, et donc ça, c'était génial. Après, j'ai monté une course de voiture entre Paris et Moscou en 2 chevaux. Enfin, et ça a été une succession de projets et de blagues et de trucs comme ça, et c'était sympa.
D'accord, donc il y a beaucoup de fun, beaucoup de plaisir, quoi. Dans... Et t'es déjà.
Ouais, mais pas dans un canapé à rien faire.
Oui, bien sûr, bien
Mais
sûr.
tu vois, juste plein
Projet,
de projets.
projet. Et donc tu commences à faire des stages, j'imagine. Tu commences à. Qu'est-ce que tu testes? Est-ce que tu as déjà des envies à l'époque pour tester sur des métiers ou tu sais ce que tu veux faire ou pas du tout?
En fait, j'en ai aucune idée, si ce n'est que je sais que, en fait, j'ai envie de monter ma boîte.
Ah, ok.
Je pense que j'avais envie de ça, mais c'était des, c'est pas, je cherche pas du tout d'excuses, mais je pense que l'entrepreneuriat à l'époque était beaucoup moins développé, et je pense que les écoles en
Quelle année
France,
là? Dans quelle année?
on est entre 2006 et 2009.
D'accord, donc on est en pleine crise de ce prime.
Exactement.
Donc c'est quand
Tu
même la
vois,
merde.
en 2006, on monte un site internet avec avec Olivier, que
Ouais.
t'avais rencontré
Et
d'ailleurs.
le site fait quoi?
En fait, c'était un site qui s'appelait edec.com, mais edec avec un K, donc grosse erreur, on va dire stratégique, parce que du coup, t'avais une prise. Et en fait, c'était un site communautaire qui permettait aux étudiants de l'école, en fait, d'avoir une plateforme sur laquelle tu pouvais partager des photos,
Donc
tu
c'est
vois, des
Facebook
jeux.
à la française, quoi.
C'est Facebook qui arrive et qui balaye tout de façon après. Mais il y avait cette idée. Puis de toute façon, Facebook, ils ont rien inventé. T'avais d'autres espaces avant derrière. Ils ont juste mieux exécuté que tout le monde. Et donc tu vois, on se fait fermer par l'école parce que ils nous disent que en fait on a utilisé la marque. Et puis en fait, ça devenait assez potache. Et donc évidemment, l'école voulait reprendre la main dessus. Donc tu vois, il y avait eu ce premier projet-là, puis après il y a eu donc ce projet un peu jeu qui était en fait un voyage entre Paris et Moscou en 2 chevaux avec 11 écoles, et en fait tu avais un jeu en ligne qui permettait à des sponsors de, enfin tu vois, les étudiants de mobiliser une communauté d'étudiants dans l'école pour répondre à des questions dans lesquelles on avait inséré pardon des questions sur les sponsors qui du coup finançaient les voitures.
Ok.
Donc tu vois, il y avait eu un peu tous ces projets-là. Et je sentais que, en fait, j'aimais, tu vois, créer des projets, passer du temps à faire des choses avec les gens. Mais t'avais pas encore tout ce terreau qu'il y a aujourd'hui, tu vois, dans les écoles, en fait. Et donc, en sortant d'école, je me dis,
Et
il me faut un métier.
dans ton école, est-ce que tu as des mecs et des meufs qui ont cette fibre entrepreneuriat? Parce que tu as souvent en fait des cohortes de gens qui vont se lancer un peu au même moment. Est-ce que tu arrives à est-ce qu'il y a des gens que tu dis ah ouais de l'EDHEC, il y a plein d'entrepreneurs je pense de ta génération qui ont dû se lancer, et est-ce que tu arrives à spotter des gens dans la même dynamique ou tu es dans ton truc un peu solo?
Oui, mais pas beaucoup. Donc tu vois, il y a Spot Olivier avec qui on fait tous nos trucs et on se dit ah tiens on pourrait faire ça, ah, tiens on pourrait faire ça. Et je pense qu'il y en a plein, mais on les rencontre pas plus que ça. Alors qu'aujourd'hui, je pense que dans les écoles,
C'est plus dynamique.
tu les donc, et donc en sortant d'école, je me dis bon il me faut un métier. Et en fait, je pars dans la finance parce que ça me semblait intéressant, donc pas du tout dans la partie finance de marché, mais plus dans le monde de l'investissement que j'avais découvert un peu par hasard. Et je trouvais hyper intéressant le fait d'être au contact d'entrepreneurs, parce que finalement c'était des gens qui avaient, tu vois, monter des entreprises qui essaient de réfléchir à des nouveaux projets ou à des nouvelles une nouvelle phase, enfin, tu vois, quand tu vas lever des fonds, quand tu vas racheter une entreprise, c'est pour passer à une nouvelle phase. Et puis avec un côté qui me rassurait un tout petit peu, qui était, en fait, t'apprenais quand même un métier qui était le métier des chiffres, t'apprenais à analyser un marché, t'apprenais à, tu vois, analyser les comptes d'une entreprise, tu discutais de performance, t'apprenais à valoriser. Et donc, il y avait peut-être ce côté qui me rassurait un peu de me dire, on m'apprend quelque chose.
Et tu faisais chez qui?
Donc, je fais ça, je fais un stage dans une banque qui s'appelle Bryan Garnier, en M&A. Parce que j'ai un coup de cœur pour le gars qui me fait passer l'interview, qui d'ailleurs plus tard est devenu entrepreneur, c'est assez marrant. Après, je vais au FSI, qui était le fonds de l'État qui avait été créé par Sarkozy. Ouais. Un peu par hasard, un copain qui m'appelle et qui me dit, tiens, regarde, il y a ce truc qui cherche des stagiaires. À mon avis, ça te plairait. Et là, énorme coup de cœur pour l'équipe. C'était un terreau de gens hyper intéressants et sympas et humbles qui étaient fantastiques. En gros, c'était des gens qui venaient, tu vois, soit des entre guillemets serviteurs de l'État, donc des gens qui avaient passé du temps dans les administrations, soit des gens qui avaient passé du temps dans des institutions financières, donc tu vois des banques, des fonds, ou des cabinets de conseil, ou dans l'industrie. Et le mélange de tout ça
était
déployer de l'argent pour le compte de l'État pour soutenir l'économie.
En France,
c'était vraiment axé sur la France. Il recrutait pas de juniors et donc à la fin de ce stage-là, moi je me dis en fait j'ai trouvé un métier qui est super, mais j'étais hyper attiré par les pays émergents et par l'Afrique. Et donc je postule dans 200 fonds dans les pays émergents en envoyant un message en disant voilà il y a deux gars qui me rappellent, des Mexicains qui pour une raison X Y Z pensaient que j'étais au Mexique et donc me proposent un entretien. Je peux deux jours après, donc je leur dis que je suis pas mexicain et pas au Mexique, donc ça tombe à l'eau. Et ECP, qui est un fonds qui s'appelle Emerging Capital Partner, qui à l'époque était sur l'Afrique. Et en gros, ils me disent, on a un analyste qui est en train de partir. On se rencontre dans une semaine ou 10 jours. Évidemment, moi, je connaissais rien à l'Afrique. Donc, je vais m'acheter des bouquins à la FNAC. Et en gros, je lis autant que je peux. Et je lis un bouquin de Solferino, à qui je dois, je pense, du coup, mon job, qui était le président de l'AFD à l'époque. Il s'appelait Le Temps de l'Afrique. Et en gros, j'arrive en entretien et je dis au gars, moi, je connais rien à l'Afrique. J'ai lu le bouquin de ce gars-là. Mais je trouve que c'est hyper intéressant. Voilà ce que j'en retiens. Mon job, ce sera d'analyser des marchés. Voilà.
Et pourquoi l'Afrique? C'est quoi le...
Parce que j'étais fasciné par... Enfin, il y avait plein de sujets. Il y avait le sujet culturel, il y avait le sujet diversité. En fait, c'était un continent. Il y avait le sujet des. J'étais hyper intéressé à l'époque par tout ce qui était les matières premières, les énergies et la géopolitique. Et en fait, du coup, c'était un endroit.
Terreau intéressant.
Et puis, je pense que j'avais aussi un peu envie d'aventure. Tu vois, je me disais que inconsciemment, je pense que t'as un peu envie de partir et de découvrir des nouvelles choses.
Ok. Et donc, les mecs te prennent.
Et les gars me prennent, ouais, tout à fait. Et donc, j'arrive à c'était basé à Tunis. J'arrive en plein mois du Ramadan.
Ah ouais. Et là,
en fait, du coup, le pays, en fait, tournait au ralenti. Enfin, en fait, il tourne sur un rythme qui est différent. Mais évidemment, du coup, il y avait pas grand monde dans le bureau et voilà, mais surtout, en fait, 6 mois après mon arrivée, printemps arabe.
Waouh.
Et donc,
il s'est passé des choses en Tunisie en plus.
Ouais, exactement. Et donc, moi, je bossais en Tunisie et en Égypte.
Et juste pour comprendre l'activité de la boîte, eux, ils ont levé de l'argent auprès de qui pour qui est derrière tout ça?
Il y avait en gros, il y avait plusieurs, on va dire LPs, enfin, pardon, investisseurs. Il y avait des institutions, on va dire financières, donc ce que t'as dans les fonds. Il y avait des institutions étatiques, donc tu vois Commonwealth Development pour les Britanniques, l'AFD Proparco pour on va dire la France, l'équivalent aux États-Unis.
Et le mandat c'était vraiment de déployer dans toute l'Afrique sur des industries en particulier ou c'était
Alors eux ils étaient panafricains. Et moi, l'équipe dans laquelle j'étais était, on va dire, plus focus sur Middle East et North Africa. On faisait pas grand-chose au Middle East parce qu'en fait, c'était déjà très très développé et un peu hors de portée. Mais on faisait beaucoup de choses en Afrique, donc c'était sympa. Et puis, bah, en fait, au bout d'un an, le FSI me rappelle en me disant, en fait, on a changé un peu notre politique de recrutement, on recrute des stagiaires, qu'est-ce que tu deviens? Et puis, bah, moi, je leur dis que donc je suis dans ce fond, que le sujet est passionnant, mais que tu vois, ça ralentit un petit peu parce que bah, avec le printemps arabe, on avait ralenti l'activité. Et puis ils me disent, bah écoute, discutons. Et finalement, je me retrouve au FSI à revenir dans l'équipe que j'adorais avec, tu vois, tout ça. Et au bout de 2 ans, en fait, ça devient BPI France parce que Hollande est élu. Et donc, que tu vois, le FSI est intégré avec. Et donc après, donc j'ai passé 6 ans. Et après, j'avais toujours cette envie de monter une boîte. Donc,
Attends, chez BPI là, c'est quoi les deals que tu fais, c'est quoi ton job au quotidien, est-ce que tu es confronté directement aux entrepreneurs, quel secteur tu regardes, combien de dossiers t'as backé, c'est quoi le...
là, t'as perdu 50% des gens qui
Non,
écoutaient le
non,
podcast.
mais le podcast, c'est vraiment aux gens de l'écosystème et c'est hyper intéressant, tu vois, parce que t'étais côté investisseur, donc est-ce que t'as appris des choses dans lequel tu te dis, ah ouais, ce secteur, tu vois, en l'occurrence, tu t'es lancé dans une fintech, est-ce que je sais pas, t'as investi dans ce secteur-là, ou t'as eu un edge, pas du tout?
On va dire, il y a eu 2 phases. Il y a une première phase qui était l'industrie. Donc en fait, j'arrive, c'est beaucoup beaucoup de sujets industriels, donc hyper hyper intéressant. Et il y a une deuxième phase où je me rends compte que parce que à côté j'ai ces projets de boîte, parce qu'à côté je m'intéresse vachement à ça. En fait, je suis légitime pour aller sur des sujets tech ou avec une composante tech. Et je pense que c'était vraiment une équipe qui était hyper hyper intelligente. Enfin, tu vois, toute la politique des gestions des ressources humaines, du développement des talents, de tous ces trucs-là, c'était un monde qui était hyper exigeant. On bossait beaucoup, mais les gens étaient, enfin, tu vois, essayaient vraiment de te mettre dans des bonnes conditions. Et donc, les équipes se rendant compte, tu vois, que j'ai cette appétence-là, bah, en fait, de plus en plus me poussent vers ce type de sujet. Et donc, je me retrouve à regarder de plus en plus de sujets tech et de fil en aiguille.
Les caisses d'investissement.
Les projets qu'on regardait, le FSI, ça a toujours été, on déployait en fait des gros tickets, donc c'était des projets à plusieurs dizaines de millions d'euros. Parce qu'on va dire la partie plus basse de l'innovation, qui a d'ailleurs été extrêmement bien faite par BPI France, était faite par d'autres équipes, donc c'était plutôt des stades assez avancés. Et notamment là-dedans, je découvre un certain nombre d'industries, donc tout ce qu'on a appelé après la MarTech. En 2009, je me retrouve à faire, tu vois, une analyse sur le cloud computing. Après, donc, tous les sujets, bah, de la fintech et du paiement. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu, moi, cette industrie-là. Et donc, en fait, je découvre un certain nombre d'industries, je rencontre un certain nombre de personnes, et tu regardes un peu comment les gens, tu vois, réfléchissent au sujet, et puis tu rencontres des gens hyper intéressants, et tu t'aperçois surtout, en fait, que c'est assez marrant, mais il y a plein de gens hyper sachant sur plein de sujets, et t'as la possibilité en fait de te mettre un peu au milieu de tous ces sujets-là, parce que comme t'as la carte FSI ou BPI France ou État, en fait les gens te reçoivent et viennent te parler et exactement.
Et donc d'accord, donc c'est plutôt, donc si on doit mettre une casquette, c'est BPI plutôt grosse ou pas autre chose.
C'est ce qui à l'époque s'appelait large and mid cap.
D'accord. Donc pas forcément des sujets venture, mais plutôt en fait des boîtes établies qui font des dizaines de millions d'euros et qui ont besoin de cash pour accélérer leur développement, quoi. D'accord. Et donc tu digues tu creuses un sujet autour des fintechs. Et alors comment qu'est-ce qui c'est quoi le trigger pour te donner le courage de te lancer?
Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que pendant que je suis chez BPI, je monte successivement 2 projets ou 2 boîtes, enfin, qui avaient vocation à devenir des boîtes, mais qui ne réussissent pas.
Le premier, voilà.
Le premier, c'était donc toujours avec ce fameux
Olivier.
Olive que tu connais. Et on monte un projet qui s'appelait Bilink à l'époque. Et en gros, quand je rentre de Tunisie, je me rends compte que tout mon répertoire téléphonique est obsolète. Et que mon numéro est obsolète chez l'intégralité des gens, donc dans ce sens-là, pardon. Et je me dis, mais en fait, c'est quand même idiot, parce que à l'heure où tu as des réseaux où tout est connecté, plutôt que, tu vois, demander à tout le monde de mettre à jour mon contact, il devrait y avoir un système centralisé qui te permette de dire, bah voilà la fiche que je partage à mon réseau, et si je mets la fiche à jour, bah en fait instantanément toutes les bases de données des uns et des autres se mettent à jour. Et donc on crée ce truc-là avec Olivier à l'époque. Et ça démarre, enfin tu vois, on pense que l'idée est bonne, on pense que voilà. Et puis en fait, on se rend compte que c'est un projet qui est hyper défensif. Et ça, moi, c'est un truc que j'ai appris et qui m'a marqué, c'est que tout le monde sait ce qu'il faut faire pour être en bonne santé. C'est tu dors, tu bois de l'eau, tu manges correctement, tu fais du sport. La recette, elle est hyper simple. Pour autant, le nombre de gens qui le font réellement, il est très faible, parce qu'en fait, c'est le genre de truc sur lequel tu te dis, ah mais en fait, j'aurais dû faire ça. Et nous, ce truc-là, c'était ça, c'était que quand les gens avaient un problème, qu'ils perdaient leur téléphone et donc qu'ils perdaient leur répertoire, ils se disaient, mais oui, j'aurais dû utiliser votre truc, j'aurais dû faire un backup, j'aurais dû avoir ça. Et sauf qu'en fait, tu crées pas un business là-dessus. Donc, on passe beaucoup de temps, en fait, à se demander pourquoi, en fait, ça marche pas, est-ce que les gens n'ont pas compris? Et surtout qu'en fait, je pense que pour comprendre pourquoi on est là, il faut le premier projet qu'on monte, qui est donc edec.com, qui est ce réseau social, en fait, énorme coup de bol, était positionné instantanément sur un besoin, un truc marrant et tout, et donc en fait, se répand dans l'école à toute vitesse. C'est-à-dire qu'en quelques semaines,
T'avais plus ce que c'était que...
Mais sauf qu'on pensait que c'était normal. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, on s'était pas rendu compte qu'on avait eu du bol, et qu'en fait, on s'était positionné au bon endroit, au bon moment, avec les bons triggers. Et donc, quand on a lancé Bilink, on se concentrait en fait sur le problème. Et on se disait qu'à partir du moment où l'appli serait en ligne, c'était tellement évident que les gens l'utiliseraient. Alors qu'en fait, pas du tout. Ce qui est important, c'est quel est le trigger qui va générer cette action-là, qui va générer la diffusion... Et donc, à ce premier projet-là, qui échoue, et là, je me dis, OK, en fait, c'était un projet qui était trop ambitieux pour quelqu'un qui avait un boulot en même temps. Et donc, j'en fais un deuxième, qui était un jeu, on en avait parlé, qui s'appelle SCAF, qui doit toujours être d'ailleurs sur les disponibles. Et là, je m'étais dit, OK, je veux réduire le truc à une feature. Parce qu'en fait, tu vois, Billing, c'était trop gros, et donc on a passé trop de temps. Et donc, on s'est dit, ça va être un jeu. En gros, t'as 100 questions, et c'est celui qui monte le plus haut. Et donc, en fait, c'est une compétition entre tes potes, à combien de pourcents tu vas. Et ça part bien. On met un peu de temps à le sortir, finalement, parce que, voilà, mais ça part bien. On a des bons stats. Par contre, j'arrive pas à craquer les stats de rétention. C'est-à-dire que vraiment, un truc, soit on les craquait, c'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, on rencontre les gars de Vodou, qui étaient encore petits, d'ailleurs, c'était assez marrant, qui sont devenus énormes après. Et les gars nous disent, c'est super simple, en fait, un jeu, c'est, il te faut, qu'est-ce qu'ils nous disent? Je crois que c'était 60% de rétention au jour 1. 40%. Nous, ils nous avaient dit à l'époque, parce que ça a changé maintenant, mais c'était genre plus de 50% au jour 1 et en gros plus de 25% au jour 7. Ok, très bien, on commence le jeu. Alors au début, on n'y arrive pas, on bosse un peu, on y arrive. Et le problème, c'est qu'en fait, on n'arrivait pas à acheter assez de gens pour que ça tienne. Tu vois, je pense qu'on était sur une niche en fait qui était trop petite, mais on se marre. Et j'avais toujours ce truc de je voulais monter une boîte et je rencontre quelqu'un, et c'est marrant parce que j'en ai discuté avec lui par des gens interposés, mais je pense que cette personne s'est pas rendu compte de l'impact qu'elle avait dans ma vie. Mais donc c'est Sébastien Delafont. En gros, je vais le voir parce que par des contacts interposés, je discutais avec des gens qui étaient entrepreneurs, et en gros je voulais monter une boîte, et donc je rencontrais un entrepreneur, et donc on me dit va rencontrer Sébastien, il est fantastique. Et je le rencontre, puis on discute dans son bureau, il me reçoit de manière super sympa, il me fait visiter son bureau, puis il me pose cette question, et puis il se marre. Et je lui dis, mais je comprends pas pourquoi vous riez. Et il me dit, parce que je me revois il y a quelques années, et lui, il était aussi en fait en finance, et il me dit, le problème, c'est que t'es en train d'essayer de te convaincre que tu veux vivre une aventure qui est de monter une boîte, et t'es en train d'essayer de te convaincre que rationnellement, c'est un meilleur choix que d'avoir un job en finance dans un fonds d'investissement avec toute la sécurité, d'avoir un salaire et toutes les choses. Et donc, en gros, tu es en train de faire rentrer un rond dans un carré. Et tu prends le problème par le mauvais bout. Et en fait, cette discussion, je pense qu'elle a cristallisé un nombre de choses instantanément. Elle a débloqué le truc instantanément. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, mais c'est plus la question de savoir est-ce que je vais monter une boîte ou pas, que je me posais depuis des années. C'est évidemment que je vais monter une boîte. La seule question, c'est comment? Quelles sont les quelques conditions qui doivent arriver pour que je monte cette boîte? Et pour que j'y aille à fond et pour que j'ose y aller à fond? Et en fait, à ce moment-là, j'ai arrêté tous les trucs de me dire « Ah oui, je passe d'entretien dans d'autres fonds ou je passe d'entretien dans des hedges. » Enfin, je commençais un peu à partir dans tous les sens parce que comme j'avais ce truc où j'étais bloqué, j'avais l'impression qu'en fait c'était l'écosystème ou l'endroit dans lequel j'étais qui me correspondait plus. Alors qu'en fait c'est juste que je faisais pas ce que j'avais envie de faire au bout d'un moment. J'étais arrivé au bout d'une soirée. Et là ça allait hyper vite. J'ai rencontré mes associés et puis on a monté Process Autre.
Alors tu rencontres tes associés sur un événement de mémoire, quoi.
Je rencontre mes associés sur un événement. Ouais, ça fait. Bon, c'est une longue histoire parce qu'en fait je rencontre mes associés par les gars d'une boîte qui s'appelle Motion Lead à qui j'avais filé un coup de main à l'époque parce qu'en fait Arthur et Alexei en fait donc sur ce projet Bilink avec Olivier on avait essayé de recruter Alexei et puis après il monte une boîte il me dit lui essaie de me recruter et puis un jour ils ont un challenge et donc ils me demandent si on peut se parler je leur file un coup de main en fait et on bosse pas mal ensemble bref. Et je rencontre mes associés parce que en fait ils étaient à l'EPITA et que Alexei, Arthur et Louis étaient aussi à l'EPITA à l'époque. Et donc voilà. Et au début, je rencontre mes associés, je les trouve, ils sont beaucoup plus jeunes, ils ont 10 ans de moins que moi. Mais je les trouve smart et sympa. Et puis ils bossaient sur des sujets paiement où ils commençaient à bosser sur des sujets paiement. Moi j'avais regardé un peu des sujets paiement. Et puis en fait un jour je me rends compte que les discussions qu'on a elles tiquent quasiment toutes les cases que moi je m'étais mis pour monter une boîte. Et donc en fait j'ai envoyé un mail en disant écoutez moi je suis en train de réfléchir à différents projets de boîte et je vais monter une boîte.
Mais eux, ils sont dans un délire de monter une boîte ou c'est
Mais
juste...
eux ils ont eux en fait eux ils ont commencé ce que sera Process Out. C'est-à-dire qu'en fait ils ont commencé à non ils sont dans leur école, ils font leurs études. Je te raconte pas la tête des gens autour de moi quand je leur ai dit que je démissionnais pour aller m'associer avec des étudiants en école pour monter une boîte dans le paiement.
Donc t'envoies un mail avec lui, on sait où?
J'envoie un mail, non, j'envoie un mail à la team, quoi. Et donc je leur dis voilà, et on s'entendait bien, enfin on s'entendait bien. Je veux dire, moi j'arrivais chez des coups de main, on se prenait des cafés le dimanche matin, ils venaient me voir avec des questions, tu vois, et puis on discutait. Et puis finalement, de fil en aiguille, donc on se dit bah ouais, allons-y. Et on se dit bah donc nous on se rencontre en octobre, fin octobre, début novembre 2015. Là on est en février 2016. On a, tu vois, vachement discuté. Moi je les ai aidés un peu sur leur sujet. Et en fait, on se dit, on se donne jusqu'à avril ou mai, je sais plus, avril. Si ça se passe bien, moi je démissionne hein, et on y va. Et la seule chose que moi je leur dis, c'est OK, le contrat moral, c'est que, en gros, moi je vais lâcher mon job. Et donc, ce qu'on se dit ensemble, personne n'arrête de bosser sur ce projet-là et tu vois, et n'arrête d'y croire, en fait, avant une certaine date. Et comme ça, au moins, on se donne les chances d'y arriver. Et ça se passe bien et je démissionne en mai et donc début juin je me retrouve tu vois full time là-dedans et là, à ce moment-là on part aux États-Unis parce qu'entre-temps en fait avec Cyril le soir on avait postulé à Techstars enfin Emmanuel aussi mais tu vois je me faisais les dossiers la nuit et tout et donc on part aux États-Unis et puis là c'est le début d'une nouvelle vie
Ouais, c'est intéressant. Vous avez déjà un produit, vous avez déjà un début de...
On a un début de produit, mais en fait qui est et ce qui était d'ailleurs ce qui a été mon intuition quand je les ai vus, c'est qu'en fait je regarde ce qu'ils étaient en train de construire, ce qu'ils faisaient et ce à quoi ils réfléchissaient, mais en fait ils le construisent hyper bien. Mais en gros c'est un truc qui aurait dû être construit il y a 5 ans ou 10 ans. En fait, ça arrive trop tard sur le marché. C'est déjà. Mais quand tu regardes, tu te dis ils sont super bons ces gars-là. Ils sont jeunes, mais ils sont super bons, ils sont super smart. Et donc en gros. J'ai une équipe qui était un des critères que moi je m'étais mis pour tu vois et donc là en gros ce qui se passe c'est que on commence une phase d'itération assez on va dire que moi j'ai trouvé compliqué parce qu'en fait enfin moi je trouve que quand tu montes une boîte t'as deux phases après qui durent plus ou moins longtemps en fonction des gens qui en fonction des projets mais t'as la première phase qui est ta phase d'itération où t'essaies en fait de trouver quelque chose qui va créer de la valeur pour quelqu'un et pour lequel cette personne va être prête à te payer suffisamment d'argent pour que tu puisses tu vois le produire enfin et oui et continuer à investir. Et donc ça tu vois, t'as vraiment cette phase d'itération et puis après tu as la phase d'exécution où, en fait tu as trouvé ton truc et là tu te dis OK, il y a un marché, il faut y aller à toute vitesse et puis c'est une course de vitesse. Et moi je pense que j'étais hyper mal câblé pour la phase 2, très très mal câblé pour la phase 1. Et donc déjà j'ai eu une grosse phase d'adaptation et d'apprentissage sur la phase 1.
Donc sur la phase 1, toi, tu arrives avec un mindset très data-driven, sauf qu'en fait, il y a rien qui est, pour l'instant, s'il n'y a pas de client, on est sur le produit, il faut valider le besoin, il faut tout défricher. Toi, qu'est-ce que tu leur apportes à ce moment-là? Tu les rassures?
Non, en fait c'est juste que moi je pense que j'arrive et en fait je pense qu'à cette époque-là, j'idéalise la tech. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai compris après, enfin, ce que je crois avoir compris après, parce que peut-être qu'un jour je te tiendrai un discours différent, c'est que, en fait, on a déjà parlé plein de fois ensemble, mais t'as la vague, l'équipe, l'exécution. Et en gros, la vague, c'est ton marché, c'est le train que tu vas jouer. Et en fait, tu vois, si la vague est pas bonne, tu peux avoir la meilleure équipe et la meilleure exécution possible, ça marche pas. Okay. Et en fait, moi, je pense que je confonds à l'époque la vague et la tech. C'est-à-dire qu'en fait, je suis omnubilé par la tech et par le fait de dire, OK, il faut faire un truc tech, alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est trouver une vague. Et donc, je me laisse, je pense, vachement impressionné à l'époque par des gens qui vont avoir une expertise tech ou qui vont faire de la tech pour faire de la tech et non pas faire de la tech pour créer de la valeur ou prendre une... Et du coup, je pense que je commence à jouer à un jeu avec des codes que je comprends mal et avec des réflexions. Alors que ce que je comprends, enfin, ce que je pense avoir compris a posteriori, c'est qu'en fait, tu cherches la vague. En fait, cette vague-là, tu vas regarder comment la tech, en fait, va te permettre de la prendre de manière, on va dire, très efficiente et potentiellement plus rapide que d'autres personnes. Donc, en fait, ça devient, enfin, tu vois, la tech n'est jamais un élément, enfin, c'est pas une fin en soi, exactement. Et en fait, après, ce que tu vois, c'est que t'as 1000 gars qui vont avoir une idée, t'as 900 gars, enfin, donc t'as 1000 gars qui vont avoir une idée, 1000 gars qui vont essayer de construire une tech, t'as 900 gars qui vont pas réussir à construire la bonne tech qui va te donner, en fait, les bons avantages. Donc, soit elle va pas réussir à faire ce qu'elle veut, soit elle va réussir à le faire de manière non scalable, soit de manière trop coûteuse, voilà. T'as 100 gars qui vont commencer, en fait, à s'approcher d'un truc qui peut devenir un produit. Et en fait, les 10 gars qui vont jouer la finale et qui vont gagner, ils ont tous une excellente tech. Et en fait, ils font la différence sur autre chose. Et c'est ça, en fait, que je comprends pas à l'époque. Et donc, je me focus énormément sur la tech et sur tous ces sujets-là et je perds beaucoup de temps, en fait, à essayer de convaincre des gens d'utiliser un produit dont ils n'ont pas forcément besoin ou de construire un produit parce qu'en fait, je me focus sur la tech plus que la proposition de valeur.
Il y a aussi, dans la composition de l'équipe, le barycentre de la tech, il est énorme parce que finalement...
Chez nous?
Oui.
Ah oui.
People's out, vous êtes 6.
Ouais.
Sur les 6, il y a 5 tech, quoi.
Mais ça, parce que moi, c'est ce que je cherchais aussi à l'époque. C'est-à-dire que tu vois, quand je réfléchis à, OK, c'est quoi les conditions pour être prêt à lâcher mon job?
Ouais.
En fait, je me dis, je veux de la puissance tech. Je veux de la capacité tech parce qu'en fait, c'est ça dont j'ai besoin. C'est la seule chose que je ne peux pas faire. Ou que je vais mettre trop de temps à apprendre. Et donc, et effectivement, et je pense que t'as raison, ça nous amène dans un, alors que tu regardes la boîte d'école, quand on comprend qu'en fait, notre problème, c'est pas le paiement, mais c'est l'optimisation du paiement, c'est-à-dire quand j'arrive à formaliser ça correctement, quand j'arrive à mettre un chiffre dessus qui est ces fameux 5 à 10% de transactions qui sont bloquées pour des raisons d'échec, pour des fees, et que ensuite on crée un produit dans lequel en fait la tech fait un truc, mais c'est surtout c'est le go-to-market du produit qui fait la différence. C'est le truc de monitoring dont on parlait tout le temps, qui était Telescope. En fait, il avait été conçu parce que moi je me disais, OK, quand je vais dans un rendez-vous, les gens me disent non pour 3 raisons. Et donc, je vois ces 3 raisons-là, et je me souviens, on était dans un bus avec Manu à New York, et je dis à Manu, OK, mais, en fait, comment on pourrait faire un produit? Comment la tech pourrait nous aider à faire un truc où, en fait, les gens, ils vont nous dire non, 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 et on va leur dire, bah, t'as raison, et c'est pour ça qu'en fait, on va te donner ça. Parce que, en fait, t'as raison de pas vouloir faire ça. Et ça, ce sera la porte d'entrée vers ce que tu ne voulais pas faire. Et là, c'était des discussions avec Manu hyper marrantes. Pour ça, mes associés, ils sont fantastiques. Parce qu'en fait, du coup, ils adorent ce type de challenge, ils adorent ce type de discussion.
Donc là, vous arrivez à accoucher d'un produit qui répond à ces 3 questions, enfin, qui arrive à challenger ces 3 questions. Et comment ça se passe avec les premiers clients? Tu arrives à finalement contourner et bien comprendre le problème, qui est plutôt un sujet d'optimisation. Comment ça se passe avec les premiers clients? Comment tu dis, ah ouais, là, c'est vrai, là, on a compris, on va rentrer peut-être dans la phase 2 dont tu parles?
En gros, il y a eu trois, je pense que tu as 3 éléments dans ce que tu viens de décrire, et donc ça a été un peu il y a un moment où les planètes se sont alignées. Le premier élément, ça a été de comprendre en fait le problème et la valeur qu'on voulait créer. Ça paraît idiot avec le recul de dire ça, mais c'est une erreur, je pense que tu vois, qu'on a fait, c'est que moi, parce que j'étais une boîte tech, je suis allé vendre mon produit à des boîtes tech. Parce que j'étais une boîte petite, je suis allé vendre mon produit à des boîtes petites. Parce que j'étais entrepreneur, je suis allé vendre mon produit à des entrepreneurs. De manière complètement inconsciente, en fait. Mais parce que, tu baignes dans cet écosystème-là, c'est les gens que tu rencontres tous les jours, et donc, en fait, à partir du moment où déjà on a commencé à avoir la bonne proposition de valeur, et en fait, à la positionner sur les gens pour qui ça avait vraiment de la valeur, parce que quand tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, optimiser genre 2% ou 3% ou 5% de ton chiffre d'affaires, ça ne fait que 2 ou 5 000 euros, ce qui pour un particulier est une somme conséquente, mais pour une entreprise, c'est pas ça l'enjeu. Enfin, tu veux dire, si un des éléments clés de ta roadmap, ça devient l'optimisation de 5 000 euros, c'est un problème, en fait. Et donc, à partir du moment où on a compris ça et on a compris qu'en fait, on allait se positionner sur des gens qui avaient vraiment besoin de nous et pour qui on allait créer de la valeur, de la vitesse, dans l'ouverture de plein de pays pour des gens qui avaient des expansions extrêmement rapides, de l'optimisation de taux d'échec pour des gens qui avaient des enjeux de conversion importants, de l'optimisation de coûts pour des gens qui avaient potentiellement du cross-border, et qu'à la fin, ça avait un impact dans leur PNL ou dans leur vitesse, qui avait dans le PNL à la fin. En fait, ta vie, elle est beaucoup plus simple parce que tu parles avec des gens. Et donc, quand on a compris qu'en fait, si les gens avaient pas le problème, il fallait pas essayer de leur faire croire qu'ils avaient le problème et de les convaincre, mais qu'en fait, il fallait juste dire, bah, tu sais quoi, t'es pas encore mature. Et donc, en gros, on reste en contact et voilà. Bah, cette deuxième phase-là nous a quand même énormément aidé. Et après, la troisième phase qui a été importante, ça a été d'arriver à accepter que t'avais pas besoin d'un truc parfait pour aller sur le marché. Et donc, si tu regardes la grosse différence entre la première version du produit qu'on fait, où on essayait de tout raffiner, et la première version du produit de monitoring, mais le modèle de data de la première version du produit de monitoring, il est fait par moi qui n'est rien un data scientist. Mais il est fait par moi sur la base de bon sens et en fait de calculs qui, à l'époque, étaient humainement faisables compte tenu du nombre de clients qu'on avait et du nombre de transactions qu'on avait. Ça a duré 2 mois. Après, si tu veux, évidemment, avec Guillaume que tu connais, on a commencé à travailler là-dessus. Et d'ailleurs, tu vois que c'est là que tu vois que mes associés étaient des gens fantastiques. C'est que Guillaume, qui est un ingénieur à la base, je lui dis, bon, ok, on a ce sujet de data, tu connais quelque chose? Non. Il dit, bon, bah, écoute, enfin, je lui dis, bah, va falloir qu'on apprenne parce qu'on n'a pas les moyens de se payer un data scientist, et pourtant, la clé, elle va être là. Et le gars, il revient 2 semaines après, et il me dit, bon, ouais, j'ai fini le cours, sur machin. Ok, je comprends après comment ça marche. Vas-y, on y va. Et c'était des heures de discussion avec, tu vois, comme on avait eu des heures de discussion avec Manu sur, ok, comment on fait ce go-to-market et ce produit. Bon, bah, là, c'était avec Guillaume, et je me souviens, on raisonnait, on disait, ok, alors, en fait, une transaction, elle échoue. Bon, tu vois, il y a 3 sauts. Déjà, on va essayer de prédire dans quel saut c'est. Puis après, une fois qu'on avait les sauts, on les a, et ça, tu le fais que parce que t'as une très bonne équipe, que parce que t'as des gens comme Guillaume, comme Manu, comme, tu vois, Louis-Paul, Cyril ou Jérémy, qui sont des gens passionnés, qui sont des gens intelligents, qui sont des gens qui apprennent.
Et comment la boîte se finance à ce moment-là? Donc, il y a Techstars, où j'imagine qu'il y a un peu de cash qui rentre, parce qu'il y a un programme, Vous faites une levée de fonds avec...
Ça, c'est beaucoup plus tard. La boîte, elle se finance. Donc, Techstars nous donne un peu d'argent pour qu'on va aux États-Unis, mais globalement, en fait, ça sert à nous payer... Enfin, tu vois, genre, ça sert en fait à payer la vie de la boîte là-bas, parce que ça coûte cher. Et on se paye pas, on dort à 6 dans un Airbnb pour 1, puis à 6 dans un Airbnb pour 3, puis à un moment on a tous eu un lit, donc ça c'était génial. on a mangé des pâtes et des
enfin. Tu vis sur tes économies.
Moi je vis sur mes économies, ouais. En fait moi quand je pars de chez BPI France, je leur demande d'avoir une comment ça s'appelle une période de 2 ans où tu peux partir, je me souviens plus du terme exact.
Un sabbatical
exactement. Et en fait ils me disent que c'est pas possible et ils me proposent une rupture conventionnelle, tu vois, en me disant bah, on veut te soutenir et tout, et sauf que moi par conviction personnelle en fait je l'active pas.
C'est une erreur à poster.
Non, je suis content de l'avoir fait. Après tu vois, je sais pas, mais c'est juste que moi je m'étais dit en fait t'as eu un bon job. T'as de l'argent, enfin tu vois, t'as gagné de l'argent, t'as de l'argent sur ton compte en banque. J'avais mis un peu d'argent de côté parce que comme ça faisait des années que je m'étais pas acheté appart, j'ai pas de voiture, j'ai pas de voilà. Et en fait, je me disais honnêtement, j'ai tout reçu de ce pays. S'il y a bien un gars qui doit pas toucher de l'argent de ce pays, enfin tu vois, je suis pas celui qui en a besoin. Et donc je vais pas commencer à demander à ce pays de financer mon risque ou mon truc. C'est un choix extrêmement personnel, tu vois. Je pense que voilà. Et donc du coup, mais ouais, enfin de temps en temps, je me réveille la nuit en me disant que. Je consommais, enfin tu vois que j'avais pas mais ça a été 2 ans où tu vois bah t'apprends, tu loues ton appart sur Airbnb le week-end et puis bah tu vois genre je savais que en moyenne 2 week-ends par mois je retournais chez mes parents parce qu'en fait bah tu vois les 4 jours que j'allais mettre sur Airbnb ils permettaient de payer en fait quasiment je sais plus 30% ou 50% du loyer et donc bah tu diminues tes trucs quoi.
Et de l'autre côté, finalement, tes associés, eux, sortent d'une vie d'étudiant, donc ils n'ont pas des besoins significatifs.
Bah, ils font des efforts aussi, hein. C'est-à-dire que tu vois, on est à New York, on va pas faire des tours en hélicoptère, on va pas visiter le haut du One World, quoi.
Ok. Donc tu dis cette phase-là dure, et à partir de quand finalement vous levez un tour d'angel, est-ce que t'as besoin d'avoir cette preuve du marché comme quoi finalement vous avez développer le bon produit pour une promesse qui semble répondre à un vrai problème. Il faut attendre ça, ou il y a des gens qui croient en vous, qui disent, non, non, moi, cette équipe, je la back et c'est parti, quoi.
Il y avait des gens qui croyaient en nous.
Ouais.
Je pense qu'ils étaient prêts à nous baquer, mais je pense que nous, on n'était pas complètement prêts. Moi, j'avais hyper peur de prendre de l'argent, en fait, de gens, sans être sûr de mon coût. Et donc, on met beaucoup, beaucoup de temps, en fait, à être prêt, je pense, psychologiquement, à lever de l'argent. Et ça vient, en novembre 2017, tu vois, alors qu'on bosse sur la boîte depuis, fin 2015. Donc, Techstars avait, via le programme d'accélération, injecté un peu de cash, mais tu vois, pendant des mois et des mois, on consommait, je sais pas, on avait parlé à l'époque, mais je crois que c'était 3 000 dollars par mois.
Est-ce que tu gères toute cette partie de la finance? Oui.
Et moi, je la gère avec un modèle qui était genre, il y a l'os, le muscle, le gras. Et en gros, non mais et ça, c'était un truc qui m'a vachement servi parce que du coup, à n'importe quel moment, tu vois, donc j'avais un tableau Excel où j'avais genre tout détaillé et en mode qu'est-ce qui est de l'os, qu'est-ce qui est du muscle, qu'est-ce qui est du gras, et le fait qu'en fait tout le monde dans la boîte soit drivé par ça et sache ça, en
Ouais.
fait ça veut dire que les gens, tu crées une culture où les gens sont vraiment tu vois conscients et de se dire ok à quoi ça sert, pourquoi. Bon, on a poussé un peu à l'extrême, tu parleras à Cyril de la nuit qu'on a passée à deux dans un hôtel à Nice parce que j'avais radiné un peu sur les budgets, tu vois. Je crois que globalement, t'avais genre une douche pour tout l'hôtel. Et quand un mec allait aux chiottes et tirait la chasse, le remonter dans la douche. Bon, Cyril, il s'en souvient encore, mais toi, avec Post-Service, c'est un très bon souvenir.
D'accord, donc toi tu gères la finance, vous faites un premier tour en 2017.
En novembre 2017, ouais.
Ok, avec que des angels.
Avec que des angels, hein. Auquel t'as vachement aidé, puisque tu nous as aidé à aller chercher à l'époque, on va dire des angels top, et avec l'idée de se dire, moi, enfin, et ça c'était un truc notamment avec c'est avec Cyril qu'on avait énormément bossé là-dessus. En fait, on avait mappé les problématiques qu'on avait ou qu'on allait avoir, et on voulait chercher des gens qui étaient légitimes là-dessus. C'est-à-dire qu'on cherchait pas du tout de l'argent pour de l'argent, on cherchait vraiment des gens qui étaient bons. Et donc nous, on était dans le monde du paiement, et donc on avait cherché des gens qui s'y connaissaient dans ces sujets-là. Donc tu vois, Fabien Montcialier, Benjamin Blasco chez PayPal. Là, on est allé chercher des gens qui avaient monté des boîtes tech, qui avaient une expertise tech, parce qu'en fait, on aurait eu une composante tech forte. Tu vois, Alexis chez Atadog, Francis chez BlaBlaCar, Seb, tu vois, Lucas, et enfin bon, et donc plein de gens. Et puis après, tu vois, une expertise de gens qui avaient aussi été entrepreneurs, et donc il y avait vraiment eu ce côté de, on monte des boîtes, donc pareil, des CEOs et des entrepreneurs de boîtes. Et donc voilà, tu vois, et des gens qui avaient aussi un peu une expertise sur les États-Unis. Donc on prend ces gens-là, et en fait ça nous fait un peu un groupe d'advisors avec qui on discute beaucoup. Et surtout, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que on a compris les trois choses dont on parlait tout à l'heure, et là on passe en mode exécution. Et là, la vie, elle devient complètement différente, parce que en fait tous les jours, quand tu fais un truc, ça s'améliore. C'est-à-dire que on a un KPI qui est au début le nombre de transactions qu'on analyse, parce que si on a beaucoup de transactions, on a beaucoup de data. Si on a beaucoup de data, en fait, nos algos seront plus performants que les autres. Si les algos sont plus performants, t'as plus, en fait, d'autorisation et t'as moins de fees. Et donc, à ce moment-là, on devient omnubilé par, et tu vois, on lance le truc, premier trimestre, 30 millions de dollars de transactions analysées, première année, 500 millions de dollars, deuxième année, 10 milliards de dollars. Et à ce moment-là, en fait, on se dit, OK, c'est un vanity metrics, ça va plus, c'est plus ça qui va faire bouger l'aiguille, on passe sur les transactions routées. Comme le truc, tu vois. Et en fait, cette espèce d'exécution hyper focus fait que là, on rentre dans une autre dimension, que moi, j'ai beaucoup plus appréciée.
D'accord. Donc là, tu rentres dans une phase vraiment de running, et donc vous posez des questions, j'imagine, à ce moment-là, de comment accélérer, comment aller plus vite. Donc, comment arrive check-out, le potentiel levée de fonds? C'est quoi votre état d'esprit à ce moment-là? Enfin, comment tout ça convainc?
Nous, on a toujours été hyper hyper lean. Enfin, sur l'intégralité de la boîte, donc on a consommé 700 000 dollars. Et pourtant, enfin, tu vois, on a charbonné, et on a. Mais pour deux raisons, je pense que moi, ma chance, c'était le fait d'avoir des associés qui avaient ce profil tech. C'est que en fait, j'avais des discussions passionnantes avec eux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, moi, j'arrivais en disant, OK, comment est-ce qu'on peut faire de ce process un produit ou une tech pour qu'en fait, ce soit ultra efficace, ça coûte peu d'argent et ça scale hyper bien. Et donc, tu vois, par exemple, notre support, c'est à ce moment-là, on se dit, mais tu sais quoi, en fait, avoir un dashboard fixe, c'est idiot. En fait, il faut avoir un dashboard granulaire dans lequel tu puisses injecter du code via Slack, Parce que comme ça, quand le marchand il a une question sur le support, en fait, tu lui réponds le truc. S'il n'y arrive pas, tu n'as même pas besoin d'envoyer quelqu'un de le prendre au téléphone. Tu lui envoies le code, il le copie-colle et il a son truc. Et tu vois, et en fait, tous ces sujets-là, en fait, ce qui fait que, en fait, tu as besoin de moins de personnes. Et ton système, en fait, il marche beaucoup, mais et toujours essayer, en fait, de donner au maximum. Et donc il y a cette logique, si tu veux, où on pousse à fond tous ces sujets-là, où on travaille de plus en plus avec les acteurs de l'industrie, puisqu'en fait, on commence à travailler avec des gros marchands qui travaillent avec ces gens-là. Et les gars de Checkout, en fait, on les rencontre dans des salons. On rencontre Antoine et Matt qui t'as parlé, qu'on adore. Tu vois, alors ils sont géniaux, ils sont super smart, ils sont bons. On bosse avec des clients en commun. On s'aperçoit que Checkout, ils sont super forts. Tu vois, on s'aperçoit qu'en fait, ils font partie des top boîtes de paiement en termes de performance, en termes de produits.
Et vous bossez avec eux à ce moment-là?
On bosse avec eux, mais comme on bosse avec plein d'autres boîtes. D'accord. Mais on s'aperçoit quand même que, tu vois, quand il y a un truc qui marche pas bien, quand il y a un problème, ils sont hyper réactifs. Et puis t'as Antoine et Matt, parcourent le monde et signent des deals et on les recroise sur des sujets et tu vois quand on n'y arrive pas ou qu'ils n'y arrivent pas on s'appelle et on se dit ok enfin tu vois pourquoi cette transaction ça marche pas, qu'est-ce qui se passe, tu vois ils sont passionnés par le truc et en fait à un moment l'histoire, alors moi je connais pas l'histoire côté de Checkout parce que je l'ai rejoint en cours de route, mais en gros je crois que ce qui se passe c'est que Checkout lève beaucoup d'argent à cette époque. Moi je connais pas Guillaume, je connais pas Mike, je connais pas de ces gens-là, je les rencontrerai après. Et je crois que Antoine et Mathieu disent à Guillaume, il y a cette boîte, faut que tu regardes, il faut qu'on les rachète. Et nous, à ce moment-là, on n'est pas spécialement en mode rachat, on est plutôt en mode, on a enfin trouvé, notre marché après 2 ans, tu vois, un peu long. Et donc je suis plutôt en mode, on y va. Et je suis même pas en mode, je veux lever de l'argent parce que, en fait, comme on consomme peu d'argent et qu'on grandit, je me dis, tu sais quoi. Après le business il est viable, on se paye toujours pas, ou tu vois à la fin on se payait genre, je crois qu'on s'est payé au SMIC la dernière année, parce que un jour je crois que c'est je sais plus, c'est mon père qui m'a dit mais t'es complètement malade de pas avoir d'assurance et de pas avoir de trucs comme ça, tu vois. Et donc en regardant, je me suis dit que c'est vrai que je faisais un peu courir un risque à tout le monde, et donc en fait on a payé tous les associés au SMIC pour, en fait, tu vois, pouvoir être dans le système. Mais on était vraiment pas du tout dans ce mode là On avait failli se faire racheter, en fait, par une autre boîte quelques mois avant, et on avait regardé, et en fait, on avait perdu pas mal de temps. Donc là, j'étais plutôt en mode, ok, en fait, c'est parti. En fait, on est en train de taper les, enfin, tu vois, on a craqué notre deuxième plafond, qui était après avoir des transactions pour entraîner l'algorithme. C'était avoir des transactions qu'on routait pour démontrer que l'infrastructure a été fiable. On était à ce moment-là à des millions de transactions. Enfin, tu vois, on avait passé la barre du million de transactions par mois, et en fait, ça montait hyper vite. Et donc, en fait, quasiment tous les marchands en France, on pouvait les onboarder en confiance. Et donc moi j'étais en mode on exécute à fond. Et tu vois, on était en train de, on avait cette stratégie, on était en train de prendre la France. Et Cyril et moi on était partis aux US à San Francisco pour réouvrir les US, qu'on était revenus des US, que c'était trop cher. Et tu vois, l'idée c'était que on s'y installe, qu'on y passe du temps. Donc on était vraiment dans cette mode-là. Et puis en fait Checkout arrive. Et en gros, ça ouvre une discussion chez nous qui est, c'est quoi le futur, en fait, de Process Out? Sachant que, tu vois, on est 6 associés, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi l'histoire? C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui aujourd'hui nous empêche de délivrer la proposition de valeur? Comment on pourrait le faire? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Checkout? Et en fait, de fil en aiguille, on se rend compte que, tu vois, en fait, la data que voit l'acquéreur, c'est hyper intéressant. Et donc, pour le produit, c'est hyper bon. On se rend compte que tous les gens qu'on voit, donc c'est le moment où on rencontre Guillaume, Mike, Louis, Riaz, enfin, tous ces gars qui deviendront après, nos collègues et nos potes, en fait, sont des gens fantastiques. Moi, je me souviens, la première meeting, je me dis, mais j'adorerais recruter tous ces gens-là. Alors, je vois Mike et je me dis, il est génial, ce mec. On connaissait déjà Antoine, tu vois. Je vois Louis et je me dis, mais en fait, si tu rêves d'un RH, tu rêves de Louis. En fait, c'est à la fois un mec qui est hyper sympa, hyper smart, mais complètement sharp. C'est un gars qui sait te passer un mauvais message dans un bon sujet. C'est un gars qui est, tu vois. Et donc en gros, il y a ce fit, en fait, par souci quand même de, mais moi à ce moment-là, je veux pas vendre. Mais par souci, tu vois ce que je veux dire, de réflexion et de, tu vois, de, on regarde le projet et puis moi je me dis je vais en regarder d'autres, parce que tu vois, je pense qu'il faut jamais prendre des décisions. Enfin, tu vois, tu prends les cartes, tu les regardes et puis après tu joues. Et donc on parle à d'autres acteurs, on regarde donc potentiellement une levée de fonds. On reparle d'ailleurs un peu à ce moment-là. Ensemble. Et puis finalement, en fait, de fil en aiguille, pendant l'été, on discute avec mes associés, et à à 4 sur 6 en fait on choisit le enfin et choisit le projet de checkout.
D'accord. Donc vous avez fait ça à bulletin secret ou
je sais plus trop comment on l'a fait en discussion, mais je pense qu'il y avait un truc qui était hyper important et ce qui a expliqué, parce que dans Process Out, t'as deux trucs qui sont un peu atypiques, c'est, on va dire, le profil des associés, et le fait qu'on ait été six. Et je me souviens, les gens me disaient, mais ça va dans le mur. Et en fait, moi, j'étais convaincu qu'on n'irait pas dans le mur parce que on avait conçu en interne ce qu'on avait formalisé comme le principe d'un consensus heureux. C'est-à-dire que, en gros, ce qu'on disait, c'est on disait, ouais, ok, dans la barque, tout le monde aimerait avoir en fait un plus gros siège ou un plus gros truc ou plus de parts ou plus de, parce que tu vois évidemment dans l'assiette tu répartis, mais la réalité c'est qu'en fait il y a beaucoup de gens qui sont pas dans la barque qui voudraient être dans la barque et aucun de nous en fait ne voudrait pas être dans la barque, et donc en fait dans ces cas-là notre job, puisqu'on considère tous qu'on a une place dans la barque et qu'on dépense des valeurs et qu'on sait pas, tu vois je veux dire, qui on dégagerait, notre job c'est plutôt de faire en sorte que tout le monde soit dans la barque et qu'on accepte le consensus. Et donc on s'était dit, tu vois, on discute pas des parts, on discute pas des salaires, on discute pas de tous les trucs, au même titre tu vois qu'on s'était dit ok, quand on démarre on se donne jusque là. Quand on avait une truc, on s'était dit on n'en discute pas jusqu'à un certain stade. Et donc du coup après, si tu veux, légitimement, on a ramené ces discussions-là et ces sujets, et on s'est dit qu'en fait, pour la boîte, pour le futur, pour ça, en fait, le projet de checkout qui plaisait, je veux dire, une grosse majorité des associés, et c'était vraiment un truc important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est toujours tous potes, que tu vois, on s'entend hyper bien, qu'on a vécu une histoire qui est géniale et que qu'on part en vacances ensemble.
Et donc finalement, vous acceptez l'offre, donc.
Ouais. Et là, bah moi je me tape la négociation du deal et le deal pendant qu'on avait la croissance, parce que tu sais pas et non plus si ça va aller au bout.
Pour le coup, c'est d'être passé par une case banque d'investissement, ça aide de en termes de négo, en termes de compréhension avec tes interlocuteurs, c'est intermédiaire ou c'est pas intermédiaire ?
Non, c'est pas intermédiaire.
D'accord, c'est toi qui gères.
Ouais. Wow. Donc moi, je gère au début plusieurs process en parallèle, enfin plusieurs process. En fait, je pense qu'on a et Checkout a un peu cette même valeur, ça avait cette valeur-là et qui a fait que le deal s'est fait, parce que je pense que sinon c'était, en gros on a un vrai respect de la parole donnée, c'est-à-dire que en gros à un moment je me souviens on se voit avec Guillaume et Mike et on se dit ok, si ça vous va à partir du moment, et je crois que c'est Guillaume qui dit ça, si ça vous va à partir du moment où on se dit qu'on y va, en fait on y va, comme ça au moins on perd pas de temps, si vous voulez négocier, si vous voulez truc, mais en gros quand on se dit on y va. Et donc en septembre, je crois, moi j'appelle Mike et je lui dis écoute voilà, ou je crois que c'est début septembre, c'était la fin de l'été. Ok, écoute, on a regardé, il y avait des offres, il y avait machin, mais en fait, ok, c'est vous le scénario central. Et donc en gros, maintenant on y va. Et ce qui fait qu'en fait, tu vois, à ce moment-là, on s'est dit le job de part et d'autre, c'est plus genre de négocier un deal. C'est en fait c'est de faire en sorte qu'on atterrisse dans un deal qui va faire que la suite de l'histoire va être le mieux possible.
D'accord, donc t'es pas dans un truc, t'es pas dans une.
La négo elle est finie en fait.
Ouais, dans une interrogation de est-ce que le deal va se faire, et donc ça se trouve ça va péter pour X raison, mais plutôt de j'essaie de préparer l'atterrissage quoi.
Ouais, alors j'ai toujours le stress qui se fasse pas, plein de raisons parce que c'est quand même des moments qui sont relativement stressants, mais je sais qu'en face de moi j'ai Mike, qui est un type pour qui j'ai un respect énorme, en qui j'ai confiance, qui a un gars smart, et je sais qu'on a le même objectif.
Super. Et donc là, parce que vous êtes la première acquisition de Checkout.
Il en fait une deuxième en parallèle, ce sacré Mike, parce que c'est une sacrée machine. Et donc en gros, on est la première, mais t'en as deux qui arrivent en même temps. Et...
C'est quoi le deuxième?
C'est une boîte qui s'appelle Pin Payments.
D'accord. Qui est sur quel sujet?
Qui est une boîte de paiement, donc tu vois, et qui est. Et donc il fait ça.
Il y a deux intégrations à gérer quand même. Parce que vous êtes combien à l'époque?
Nous on est à l'époque on est une quinzaine.
D'accord.
On est une quinzaine en fait, ben toujours sur ce principe de on a essayé de tout automatiser, de tout en fait globalement t'as ouais beaucoup de trucs qui.
Donc 15 personnes. Checkout à l'époque ils sont combien?
Je crois que ils sont, quand on arrive, un peu moins de 400, un peu plus de 400, j'ai un trou. Enfin, en gros, quand on discute, Checkout, il y a eu 2-3 années d'ultra croissance, qui vont continuer, hein, mais, donc je sais plus si on arrive, je sais plus si on est genre, s'il passe la barre des 400. Enfin, je suis sûr qu'il passe la barre des 400, entre le moment où on se dit qu'on y va et, est-ce que c'est avant ou après le closing, je sais pas.
D'accord. Et donc toi, tu vas avoir une nouvelle vie là qui s'ouvre.
En fait, moi, la discussion à ce moment-là que j'ai avec Mike et Guillaume, c'est si jamais je vis une nouvelle aventure, en fait, j'ai envie de la vivre pleinement. Et donc, mon but, c'est pas de me faire racheter pour aller me mettre en vacances et en fait vester tranquillement et attendre. Ça va pas du tout me plaire. Et donc, rester dans Process Out, qui va être en fait un produit de checkout. c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est en fait de venir travailler avec vous à comment est-ce que, en fait, tu vois, process out et check out, bah en fait, on va faire un leader mondial des paiements. Et donc, ce qu'ils me disent, c'est ils me disent, bah écoute, ok, viens, rejoins-nous. Et si on pense que t'as le bon mindset, et si on pense que tu vois, en fait, toutes les discussions qu'on a eues et ce qu'on pense de toi est vrai, on te donne la strat et le M&A. Et donc en fait,
est-ce que toi, c'est les sujets qui t'intéressaient ou t'as exprimé cette
non, mais je pense que c'était, tu vois, ils ont dû se dire que c'était, tu vois, ce qui était bien, et puis peut-être selon qu'ils avaient besoin, tu vois, ce que je veux dire à l'époque. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que je me suis jamais posé de questions en fait. Mais parce qu'en fait, les choses vont tellement vite que, mais ouais, je sais pas. Faut que je leur demande.
D'accord, je leur demande, je leur pose la question. D'accord, et donc finalement, et tu dois bouger d'endroit, parce que Checkout à l'époque ont un bureau à Paris ou pas ou...
Ils ouvraient un bureau à Paris, alors normalement j'étais censé aller à Londres. Après là, on rentre dans les trucs un peu perso, c'est qu'en fait, au moment où on vend la boîte, moi j'ai un souci de santé, et donc je me retrouve à devoir me faire opérer, et à être alité, enfin bref, donc voilà. Et puis t'as le Covid et donc en fait j'ai une autre opération qui devait avoir lieu qui est décalée, donc je suis bloqué en France en fait pendant plusieurs mois. Et puis après bah le monde évolue vachement parce qu'en fait tu passes en lockdown avec des logiques de remote, voilà. Et donc finalement à la base le plan c'était que j'aille à Londres, mais j'y suis jamais allé. Puis tu vois la boîte devient de plus en plus globale, donc en fait on est de plus en plus remote. Et donc là si tu veux la mission ça devient ok bon bah Mike qui avait la strat à l'époque, mais en fait je pense que c'est pour ça, c'est parce que comme moi je bossais avec Mike, Guillaume a dû se dire voilà, ils s'entendent bien, voilà, et Mike qui avait la strat en fait devient CEO peu après qu'on se fasse racheter, c'est parce qu'en fait Mike avait déjà quasiment un job de devient CEO pardon, parce qu'il avait déjà un job de CEO, et tu vois il avait 60 personnes en strat avec lui, quand il devient CEO il reste une personne avec moi, Marion, tu vois, qui est une femme fantastique. Et puis ben avec Marion on se dit ok, en fait il faut construire un département strat.
D'accord.
Et donc là c'est le début de 2 ans hyper intense mais top,
où ben en fait t'as un mandat, t'as quoi, c'est quoi ton, ou alors tu dois juste être opportuniste, bien comprendre ce qui se passe.
C'est un mix des deux, tu vois, j'ai une discussion avec Guillaume qui m'explique un peu, tu vois, ce que je veux dire, ce que lui voit dans la strat. Et puis après, il me dit, écoute, tu sais quoi, je te fais confiance aussi, vas-y. Et en gros, moi, je fais un peu une analyse et je comprends en fait que si tu veux, c'est pas du tout le moment de réinventer le modèle. En fait, c'est le moment d'accélérer et donc il faut que la strat se mette au service de la vitesse. Et donc tout ce qu'on va faire, ça va être comment est-ce qu'on va faire en sorte de connecter tous les éléments dans la boîte pour qu'on identifie hyper vite quels sont les bottlenecks. Pour que en fait tu vois toutes nos ressources et tous nos plans en fait soient sur aller prendre en fait le marché sur lequel on est positionné et aller augmenter nos parts de marché, augmenter la valeur qu'on crée là-dedans et aller le plus vite possible.
C'est un enjeu d'organisation interne, de vélocité ou...
C'est un enjeu de vitesse. Après t'as plein d'éléments, mais c'est un enjeu de s'assurer que ben tu vois tout le monde regarde les mêmes chiffres. Donc typiquement de tu vois on a par exemple construire une carte du monde en disant bah tu vois voilà les marchés, et en fait si tu veux cette carte du monde là comme c'est un enjeu de vitesse, bah tu te dis pas que tu veux juste avoir la taille des marchés, en fait tu veux avoir la taille du marché, tu veux avoir à quel point ton produit va permettre de rentrer ou non ou de capturer de la valeur ou non rapidement dans ce marché. Donc en fait tu vas regarder ce qu'il faut dans chaque marché, est-ce que t'es en part avec le marché, est-ce que t'es below expectation, est-ce que t'es best in class, et en fonction de ça tu vas dire où est-ce que tu pousses plus rapidement, comment. Et puis après tu vas regarder dans ton portefeuille client. En fait, tu vois, on essayait d'estimer les parts de marché de nos clients sur les différents pays, en se disant, ok, bon bah voilà, tu vois, on pense que là, en fait, on peut essayer d'aller se développer parce qu'en fait, on a déjà des soutiens solides. On pense que, tu vois, de vachement rationaliser, de faire en sorte que tout le monde parle le même langage, et puis après de connecter. Donc, tu vois, on a recruté en fait et on avait conçu la strat comme ce qu'on avait un peu appelé un talent pool. C'est en fait en se disant, ok, c'est un très bon moyen de faire rentrer des gens avec un profil cabinet de conseil, banque, tu vois ce que je veux dire, qui connaissent pas forcément le paiement, mais qui ont la tête bien faite, qui travaillent bien. Et en fait, on va les faire rentrer là-dedans, les faire travailler dans l'émission. Et puis, bah, un jour, en fait, des équipes en interne viendront les prendre. Donc, c'est ce qui s'est passé après, en fait, dans la première génération qu'on a recrutée. T'as des gens qui sont partis,
On servait dans ton équipe, quoi.
Oui, enfin, ça faisait partie du projet, hein. Donc,
Et la partie M&A là-dedans?
La partie M&A, elle vient plus tard. parce qu'au début le but c'est pas de faire du M&A. Elle arrive plus en fin 2020, début 2021, parce que en fait, si tu veux, à partir du moment où, enfin, quand on se dit ok, bah en fait la priorité c'est d'accélérer, sachant qu'on a le bon produit. En fait, c'est ce qu'on dit, c'est on a, tu peux toujours avoir un meilleur produit, tu peux toujours avoir, mais en gros c'est le moment d'accélérer. Et le M&A dans les boîtes tech et dans le paiement, il n'y a pas beaucoup de boîtes en fait qui ont eu des bonnes stratégies M&A et qui ont réussi vraiment à créer à long terme de la valeur ou à accélérer. Et donc on va vraiment rechercher, tu vois, on se pose la question de faire quelques acquire, on se pose la question de, mais en fait on s'aperçoit qu'il faut qu'on passe beaucoup beaucoup d'énergie à surtout faire accélérer notre système organique. Et donc on travaille beaucoup beaucoup là-dessus, tu vois, on développe tout ce framework de best in class en interne pour que tout le monde parle. Et donc c'est ça qui nous prend du temps. Enfin c'est là qu'on met des ressources, tu vois. Et puis après le M&A, ça a beaucoup commencé en fin 2020, sur 2021, où en fait de manière, comme on grandissait, comme on était de plus en plus visible, il y avait de plus en plus en fait d'opportunités qui arrivaient. On n'était pas du tout proactif, on était vraiment réactif. Mais tu vois, à la fin en 2021, je crois que, et au début de l'année, j'avais pas d'équipe M&A. On a regardé plus de 100 opportunités d'acquisition. Donc ça a été beaucoup de boulot.
Et finalement, ça aboutit à quoi les 100 opportunités d'analyse?
Bah on a fait quelques opérations, on a fait quelques trucs sympas, on a fait des investissements dans des fintechs en fait qui étaient des bons partenaires pour nous. On a fait tu vois quelques acquisitions de boîtes pour on va dire différents rationnels. On a drop beaucoup beaucoup de sujets surtout en fait. Parce que je pense que c'est hyper important d'arriver à avoir cette rigueur de il faut pas que ce soit un défocus, il faut pas que ça t'enlève ta priorisation, il faut pas que ça t'enlève ta vitesse. On n'est pas du tout à un stade de la boîte où l'enjeu c'est, tu vois, de faire des acquisitions pour réinventer le modèle ou pour. On est à un stade de la boîte où c'est un enjeu d'exécution et de vitesse et de rapidité.
Il y a des choses que tu as apprises chez BPI Process Out que tu infuses chez Checkout. Il y a des en termes d'ADN, tu vois, cette exigence d'être très lean, est-ce que alors, c'était peut-être déjà très compatible finalement avec le mindset de Checkout. Est-ce qu'il y a des choses que tu arrives à insuffler?
Ben, je pense que si je simplifie, je pense que ce que m'a appris la première partie de ma carrière, c'est l'analyse d'un marché. Et de comprendre en fait sur ce marché-là où est-ce qu'il y a une place pour se positionner et qu'est-ce qui est, tu vois, un angle d'attaque ou un sujet. Ce que m'a appris Process Out et ce que m'ont appris mes associés, c'est en fait la tech comme un moyen de faire quelque chose. Et du coup, en fait, je pense que chez Checkout, quand je suis arrivé, bah, j'avais ces deux bagages sur lesquels, tu vois, je me suis appuyé. Et Checkout m'a appris un truc qui est complètement différent, qui est que Process Out avait commencé un peu à m'apprendre, qui était l'opérationnel et l'exécution. Mais quand on est arrivé chez Checkout et les deux dernières années, ça a été à une vitesse, tu vois, ça a été, enfin, je sais pas, faut prendre une bonne analogie, je jouais en Ligue 1 et tout d'un coup, je me suis retrouvé avec des gens qui jouaient avec des champions, tu vois. Et donc, t'as que des super joueurs, et donc t'apprends énormément.
Un mindset orienté top line, pour avoir passé du temps avec les équipes sales, il y a quand même une culture de la gagne business qui est assez extraordinaire.
Bah c'est ça ce que je vois, c'est que Checkout, c'est une boîte qui est hallucinante en termes de culture, en termes de personnes, en termes d'exécution, et donc c'est ça que, enfin, tu vois, que j'ai découvert et que j'ai appris. Enfin, j'avais des associés qui étaient des gens fantastiques, qui sont des gens fantastiques. On avait des employés, mais on n'était que 15. Et donc il y a un truc que tu fais à 15, et puis il y a un truc que tu fais à 400, puis à 1000, puis à 2000, et puis il y a le fait de passer de, tu vois, tous ces changements. Et donc c'est ça en fait que j'ai vécu et que j'ai appris et qui était hyper intéressant, c'est qu'en fait cette boîte, et c'est là où moi j'ai énormément d'admiration, tu vois, et de respect pour les gens de Checkout, c'est que ils se sont déjà réinventés, enfin, pas dans leur business, je veux dire, mais dans leur organisation, dans leur modèle, un paquet de fois, parce qu'en fait, à chaque fois que tu passes des paliers, ben, tu vois, tu gères pas une boîte de 50 personnes, comme tu gères une boîte de 2000 personnes, Et en fait, quand tu regardes le laps de temps entre 50 et 2000 chez Checkout, tu parles pas de 10 ans. Tu parles en fait peut-être de 5 ans, sachant que on sait tous très bien qu'en fait, tu as un premier gap à 10-15, tu en as un deuxième, tu vois, à 50-100, tu en as un troisième à 400-500, tu en as un quatrième à 1000, et tu vois, et t'en as... et les gars, ils passent les paliers.
Ouais, et tu sens qu'il y a quand même une mafia autour de Guillaume qui sont presque les mêmes depuis le départ, donc qui, dans lequel il y a une, vous êtes, je pense, greffé avec Processout. Je pense que Manu a pris une position super importante, toi aussi, et j'imagine que le reste de l'équipe aussi. Et ça, c'est assez bluffant, c'est-à-dire que c'est quand même, il y a beaucoup de jeunes, à mon avis, qui ont démarré comme premier job aux côtés de Guillaume, qui ont grandi avec lui et qui font partie de cette garde hyper dans laquelle il a confiance et qui ont des responsabilités énormes. Ça, c'est assez étonnant quand même.
Je pense que t'as un mix de différentes choses. Un, on est tous convaincus qu'on n'a pas gagné et qu'on est tous en train de jouer la partie. Et je pense que ça, tu vois, c'est un truc, c'est hyper important, et je pense qu'il faut qu'on se le dise et qu'on continue à se le dire, parce que le jour où on va considérer qu'on a gagné sera le jour où on a perdu. C'est, enfin, elle est pourrie cette phrase, mais elle est nulle, c'est une catastrophe. Mais c'est vrai, c'est qu'en fait, ça, je pense qu'il faut le, ça commence par la tête, et donc ça commence par Guillaume, mais ça, c'est un truc qui est très très important, parce qu'on est très très loin d'avoir fini ou d'avoir gagné. Deux, je pense que si tu regardes en fait l'histoire de Checkout, ou si tu regardes l'histoire, en fait c'est une somme d'histoires assez fantastiques. C'est que, et je suis pas là depuis le début, mais de ce que je vois depuis, si tu veux, quelques années, soit quand on travaillait avant avec eux, ou soit depuis qu'on travaille avec eux en tant que partenaire chez Processout, ou maintenant qu'on travaille avec eux en interne, c'est qu'en fait t'as un paquet de gens qui ont fait des choses transformantes pour cette boîte. Mais le collectif est tellement fort que personne ne considère qu'en fait, à lui seul, il a changé la boîte. Alors que honnêtement, t'as des gens qui ont fait des trucs extraordinaires et qui ont fait passer des paliers à différents moments. Et ça, je pense que cette culture, tu vois ce que je veux dire, de l'équipe avant l'individualité, mixée au premier point, est super intéressant. Enfin, t'as parlé avec Antoine, t'as parlé avec Mathieu, tu vas parler avec Guillaume. Ils ont tous des histoires incroyables. Tu vois, ils ont tous, à un moment ou à un autre, marqué un but à un moment extrêmement important. Et donc ça, je pense que c'est le deuxième sujet. Et après, je pense que le troisième, c'est la force de Guillaume en tant que CEO. C'est que je pense qu'il sent bien sa boîte. Et en fait, il sait à quel moment c'est pas une vérité immuable, mais je veux dire, c'est que globalement, il sait à quel moment il faut continuer ou changer. Et donc, l'histoire de Checkout, en fait, quand tu la regardes, c'est cette capacité à faire venir et monter des talents qui vont au service du collectif, tu vois, délivrer quelque chose, et à leur faire aussi accepter que, tu vois, la partie qu'ils sont en train de jouer, en fait, c'est plus forcément la meilleure partie pour la boîte, et que c'est le moment en fait de jouer une partie un peu différente, et soit de libérer la place pour un autre joueur et en fait de s'occuper d'autre chose, soit de changer la manière dont tu manages ou dont tu vois, et c'est ces histoires là et ces évolutions, et ça c'est un talent de Guillaume qui est indéniable. Ouais.
Donc aujourd'hui, la photo, c'est quoi le Checkout en nombre de personnes, nombre de pays, vous avez combien de bureaux, ça ressemble à quoi?
T'as à peu près 2000 personnes, sachant que ça évolue tout le temps. En gros, globalement, quand nous on est arrivé, t'avais le UK qui était, on va dire, t'avais UK MENA qui étaient les deux grosses zones, avec la partie asiatique qui était historiquement toujours, on va dire, importante, mais qui se développait. Là, il y a eu un gros push, tu vois, sur l'Europe. En fait, notamment à cause du Brexit, parce que historiquement le UK c'était l'Europe. Bon, malheureusement, ils sont plus. Et puis, toute la phase là américaine. Donc ça se développe. Enfin, tu vois, c'est une machine qui se développe énormément, ouais.
Et donc toi, dans ton rôle là, est-ce que t'es au conseil d'administration? Est-ce que tu as un rôle aussi très stratégique avec les investisseurs, ou si tu restes dans un rôle très opérationnel?
Non, moi, mon rôle il a énormément évolué en fait depuis 2 ans. J'ai eu, je pense qu'il y a, enfin moi j'ai le sentiment d'avoir connu 3 phases chez Checkout. La première, quand on est arrivé, qui a été une phase en fait de focus et de priorisation. C'est-à-dire que tout d'un coup, Checkout était une boîte qui était autofinancée, hyper, tu vois, on va dire lean, s'est retrouvée avec beaucoup d'argent sur son compte en banque, qui a toujours été rentable, qui a toujours été un super business, mais s'est retrouvée avec beaucoup d'argent sur son compte en banque, et avec du coup les moyens d'une ambition beaucoup plus grande. C'est-à-dire que je pense que cette levée, elle a, dans la tête de Guillaume, elle faisait gagner du temps, et donc en fait tout d'un coup il a lancé plein d'initiatives, mais je pense que l'ossature de la boîte, elle n'était pas encore prête complètement pour ça. Et donc finalement, on s'est rendu compte de ça, et donc on a beaucoup travaillé, tu vois, sur prioriser. Je te parlais des bottlenecks tout à l'heure. Enfin, je sais même pas comment on dit ça en français, parce que c'est éponyme d'anglais. Mais donc ça a été la première phase. Et donc ça a été toute la phase en fait où globalement moi j'avais une équipe en strat qui était cette équipe en fait, tu vois, tournée vers la vitesse. Et moi je me souviens que tous les lundis, tu vois, mon truc c'était de dire ok, en fait. On joue pour gagner, on joue pour aller plus vite, on doit être omnubilé par ça, quoi. Trouvons les bottlenecks, trouvons les trucs pour lesquels ça passe pas, trouvons tous les endroits où on a quelque chose sur le marché et où on maximise pas le ROI de ce sujet-là. Cette phase-là, elle a duré pour moi jusque fin 2020. À ce moment-là, fin 2020, en fait, tu as quelques changements dans l'organisation et finalement, tu vois, on a le sentiment de se dire, OK, en fait, on voit notre colonne vertébrale, ce qu'elle était, ce qu'elle sera et donc voilà. La deuxième phase, en fait, ça a été la construction de tout ce qu'il y avait autour de cette fonction, comment ça s'appelle, autour de cette fonction vitesse. Donc à ce moment-là, moi, je suis au COMEX de la boîte. Et donc à ce moment, donc ce que je veux dire, c'est que tu vois, j'avais cette équipe qui était très centralisée fin 2020, et là, je construis une équipe pricing, je construis une équipe. Un peu plus tard, je commence à construire une équipe M&A, je construis une équipe market intelligence. C'est-à-dire que tu vois, une fois qu'on s'est dit, OK, on a compris la colonne vertébrale, on a compris tous ces sujets-là, on a bien repriorisé, il nous faut une équipe market intelligence qui va nous aider à prendre des meilleures décisions, en fait, en ayant la même data pour tout le monde dans la boîte. Il nous faut une équipe market intelligence qui, en gros, permette d'analyser des trends, tu vois, de fond, dans un but, vraiment, c'était genre aider la boîte à comprendre son écosystème, mais la boîte, c'était pas Guillaume, parce qu'en fait, Guillaume, il le connaît, il a monté cette boîte, il a une vision, mais c'était, tu vois, comment t'aides toute la boîte à comprendre ça? Et donc, on essaye plein de trucs, il y a des trucs qui fonctionnent, des trucs qui marchent, qui fonctionnent moins bien, mais bon, avec cette mission-là. Toujours cette équipe, tu vois, qui avait cette vitesse, cette fonction de vitesse et d'exécution, une équipe pricing, en fait, parce que comme on commence à passer dans un monde où on est multi-produits, multi-pays, multi... en fait, ben, du coup, le pricing devient plus compliqué, parce que c'est pas les mêmes, tu vois... éléments. Et puis le début d'une équipe M&A. Et puis il y avait une équipe en fait qu'on crée puis qu'on enlève parce qu'en fait ça m'a tu vois sur des projets un peu stratégiques, mais en fait on se rend compte que finalement les différents départements commencent à être matures et donc on peut réinjecter ça là-dedans. Donc ça a été la deuxième phase. Et puis ben après la boîte évolue et en fait de nouveau on passe enfin levée de fonds, on passe une nouvelle phase et en fait la stratégie la boîte. Ce qui se passe, c'est que donc là, on a recruté des execs, on a organisé les départements. Enfin, je pense qu'Antoine a dû te raconter ça. Tu vois, par exemple, dans commercial, dans ce genre. Et donc, en fait, si tu veux, une partie de la mission de stratégie à ce moment-là a vocation à repartir dans ces départements-là. Parce que tu vois, jusque-là, c'était très exécution, et puis maintenant, en fait, les capacités d'exécution, tu commences à les avoir ou de planification, ou de. Et donc, il faut se reconcentrer plus sur le côté plus macro ou plus gros. Et donc en fait, c'est le moment où stratégie commence à faire beaucoup beaucoup de sens en fait connecté à la finance sur les capacités de planification, de réflexion. Et donc en fait, à ce moment-là, tu as Céline qui arrive, qui est CFO puis qui sera CEO, CFO ensuite. Et Guillaume me dit en fait, ben maintenant, c'est le moment où tu vois stratégie, il faut le connecter à la finance. Et donc il faut que tu ailles bosser avec Céline. Et donc tu vois, Céline me dit bon bah ok, en fait. Tout ce que tu fais là-dedans, il faut qu'on le connecte avec les gens qui font du FP&A, du planning, pour que, en fait, à la fin, on ait des meilleures capacités de prédiction, des meilleures capacités, tu vois, d'anticipation. Enfin, c'est la même chose, mais donc ça a été la troisième phase que j'ai connue, et ça correspond à une phase pour moi où, tu vois, après 2 ans à 300 km/h, en fait, sur des sujets hyper opérationnels, je deviens de plus en plus, puisqu'en gros, ça, enfin, cette discussion, tu vois, je l'ai en, je crois que c'est en août, tu vois, et depuis mars, en fait, je me rends compte que de plus en plus, je suis sur des sujets qui sont plus proches de ce que j'aurais fait dans un cabinet de conseil ou dans ma vie avant, quand j'étais, tu vois, en finance. Et donc, le côté plus opérationnel me manque. Et j'ai une discussion avec Guillaume, tu vois, en lui disant, bah voilà, j'adore la boîte, j'adore, tu vois, notre ambition, j'adore l'énergie, j'adore travailler avec autant de gens, mais je m'amuse moins. Et donc, je pense que l'intelligence de Guillaume, c'est de, tu vois, de savoir aussi entendre et de te pousser quand il faut te pousser, et puis de savoir entendre quand il sent qu'aussi c'est le moment de. Et il me dit, bah, qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce que, enfin, il me dit gentiment, moi, j'aimerais bien que tu restes, tu vois. C'est. Et je lui dis, bah, l'opérationnel me manque un peu, tu vois, le commercial, le produit et tout. Et il me dit, bah, tu sais, il y a Process Out. En fait, globalement, je pense qu'on pourrait en faire un truc plus. Aujourd'hui, c'est un produit, mais tu pourrais en faire une business unit. Et on discute. Et en fait, on se dit, ok, faisons ça. Et là, en gros, il me dit, bon, par contre, tu vois, aujourd'hui, tu as la strat, le M&A, et tout truc. Moi, j'ai besoin que tout ça, quand même, soit bien connecté en finance. Donc, il faut qu'on gère correctement la transition. Donc ça, tu vois, on a cette discussion en octobre, et tu vois, donc la transition stratégique se passe assez vite, elle se passe au Q4, mais tu vois, le M&A, on met plus de temps, enfin, il faut continuer à structurer, à délivrer son jeu, et donc j'ai transitionné que début mai.
D'accord. Donc là, il y a un nouveau chef.
Ouais, qui a commencé en décembre.
Tu reboucles la boucle avec.
Ça a commencé en décembre, parce que tu vois, en partie depuis décembre, la Process Out, on a multiplié l'équipe de la taille de l'équipe par 4.
Et tu reprends des ex-Process Out origine?
Pas forcément les fondateurs, parce qu'ils ont, tu vois, maintenant des rôles chez Checkout qui sont très impactants chez Checkout, et qu'il faut que ça, il faut que ça continue. Il y a une partie de l'équipe historique qui est toujours là, il y a des nouvelles personnes, et puis, bah, surtout, on en construit une nouvelle, parce que, enfin, tu vois, je te dis, on a multiplié l'équipe par 4 depuis décembre. Donc, en fait, c'est une nouvelle équipe.
Et tu veux être full autonome? Comment ça va se passer? Ça va être une boîte dans la boîte ou...
Pour l'instant, l'enjeu, c'est, pour l'instant, il y a des sujets, on va dire, relativement urgents, et puis il y a des sujets, tu vois, de remettre. On verra petit à petit comment on va faire ça, mais l'idée, c'est de, on va dire que c'est de s'amuser.
C'est cool, c'est super cool. Écoute, on a fait un tour d'horizon qui, à mon avis, est très riche et à mon avis, correspond bien à ce que tu as vécu avec cette... ce regard qui pétille là, ça me plaît beaucoup en tout cas l'énergie et le plaisir même dans l'adversité que tu as pu investir dans tout ce que tu as fait. Donc un grand merci Gaël pour ton temps et puis je souhaite longue vie à Checkout et surtout longue vie à tout ça en fait.
Exactement.
Merci beaucoup.
Exactement. Merci à toi.
Un grand merci pour votre écoute. J'espère comme moi que vous avez passé un agréable moment avec ce talent. N'hésitez pas à partager cet épisode de Startup Mafia autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ou une nouvelle saison. Ciao, ciao!